CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour et merci d'être là dans ce MAG du Tarn-et-Garonne où l'on prendra des nouvelles de La Cuisine, le centre d'art de design de Nègrepelisse qui est fermé mais où il ne se passe pas rien. On ira au musée Victor Brun de Montauban pour fêter l'arrivée de Nénette Ours Brun des Pyrénées, reportage de Maya et William. Mais avant ça, la nature est en question. On est mercredi et Louis se demande comment les oiseaux reconnaissent leur nid.
Pourquoi les feuilles tombent en automne ?
Moi je dis que c'est peut-être que c'est pour parce qu'il.
Non. Pourquoi les mouches peuvent marcher au plafond ?
Parce qu'ils ont des.
Pourquoi les chauves-souris dorment la tête en bas ? Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ?
Mais en fait c'est pour je crois c'est pour s'adapter. Je sais pas.
Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 6 ans. Comment les oiseaux peuvent-ils reconnaître leur nichoir ?
Grâce à l'adresse.
À l'odeur peut-être ?
Parce qu'ils ont des yeux.
À l'odeur.
Les oiseaux reconnaissent leur nid car ils ont une manière différente de les construire et ils y laissent une odeur.
Ce qu'ils voient, comme nous, comment tu reconnais ton nid, toi ? Tu le sais. Voilà, c'est instinctif, c'est comme pour nous.
Sûrement par l'odeur, je sais pas, j'en ai aucune idée.
Mais du coup, ils mettent leur clé dans le nid et si le nid ne s'ouvre pas, ils savent que c'est pas le leur.
Bonjour, je suis Sophie Rambaud, animatrice au CPIE Quercy-Garonne à Caylus et je vais répondre à ta question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les couples, ils vont s'installer sur un territoire, que le nid et l'ouverture du nid va être adaptée en fonction de l'espèce et qu'ils ont une vue performante. Et ce sont ces trois choses qui vont permettre de reconnaître leur nichoir. Déjà, comment ils prennent possession d'un territoire ? Eh bien, c'est le mâle, souvent, qui prend possession du territoire et bien souvent, il retourne sur le lieu de sa naissance, là où la nourriture, en fait, est abondante. Donc, pour dire qu'il est présent et pour délimiter son territoire, il va chanter. Et ce chant, ça va également attirer les femelles qui, elles, vont pouvoir choisir sur quel territoire et avec quel mâle elles vont s'accoupler. Ensuite, le choix du nid par le couple. Alors, les espèces carvernicoles, par exemple, les mésanges, les sittelles, les petits oiseaux, eux, ce sont des espèces qui vont choisir un trou dans un arbre. Et du coup, en fonction de l'espèce, ils vont prendre un trou plus ou moins gros. Par exemple, les mésanges charbonnières, les rouges-queues à front blanc, ce sont des espèces un peu plus grandes, ils vont choisir un trou de 32 millimètres. Tandis que les mésanges bleus, les mésanges huppés, les mésanges nonnettes, eux, ils vont choisir des trous plus petits de 28 mm. Et souvent, ils vont prendre des trous en hauteur pour éviter les attaques de prédateurs. Donc, ça, c'est la première chose. Le nid va être fabriqué avec des éléments qu'ils vont trouver sur leur territoire, des brindilles, des lichens, des mousses, des poils aussi, des poils d'animaux. Ensuite, les couples, ils vont aller chercher ces éléments-là. Grâce à leur vue, ils vont retourner à chaque fois dans le nid qu'ils ont trouvé au début, dans le trou dans lequel ils se sont installés. Et donc pour terminer, si vous voulez aider les oiseaux à faire leur nid, vous pouvez dans votre jardin installer des nichoirs bien isolés en hauteur, loin de tout perchoir pour les chats, avec un trou de 32 mm ou de 28 mm. Et vous pouvez aussi les aider en apportant des poils d'animaux sur votre terrain.
Merci et à la semaine prochaine pour une autre question.
CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et quelques nouvelles de La Cuisine, le centre d'art et de design de Nègrepelisse, dans ce MAG qui est fermé mais où il ne se passe pas rien. Sylvain Tédon est avec nous, le chargé de communication. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fermé, donc je leur disais, mais tentez tout de même et y arriver depuis un an à trouver de nouvelles formes d'expression et de création pour un centre d'art virtuel.
Virtuel, pas totalement. C'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que le centre d'art, c'est un lieu avec une grille fermée, les employés qui sont quelque part à la maison et les artistes qui ne sont pas là. C'est tout simplement le contraire. Puisque nous avons plein d'artistes qui sont en résidence, qui sont de passage, qui viennent travailler et sur lesquels nous, toute l'équipe artistique et technique, accompagnons au quotidien dans le choix des personnes à contacter, des associations à voir sur le territoire. Et c'est vrai que eh bien, ça fait à peu près un an que nous essayons de créer de nouvelles formes d'expression pour vivre dans cette période de Covid. Alors, on mobilise les artistes, mais aussi les architectes, les designers et les habitants pour essayer de nous réinventer, de proposer de nouvelles formes. Et ça peut passer par exemple, l'invitation à un artiste à venir donner son sang et à travailler avec les restaurateurs du Tarn-et-Garonne, à venir créer des actions avec les Restos du Cœur. Tout ça, c'est piloté par une personne qui s'occupe des chargés des fourneaux, Rebecca Acosta. Et puis, on développe plein d'actions autour du jardin forêt avec une autre personne, Léa Martinan, et d'autres actions qui seront à écrire et à vivre ensemble dès notre réouverture.
C'est quoi le jardin forêt ?
Alors, le jardin forêt, c'est un petit jardin pour l'instant, mais qui va devenir un très grand jardin, un jardin pédagogique sur la technique de l'agroforesterie, qu'on va pouvoir venir découvrir très bientôt, et qui nous permet de nous sensibiliser à cette question-là, à la question écologique aussi, à travers eh bien, des actions qui sont traversées par des créations contemporaines, puisque ce sont deux artistes, Stéphanie Sago et Suzy Oniski, qui ont livré ce jardin. Et il y a plein de surprises sur lesquelles on est en train de travailler pour mêler la programmation artistique et bien ce jardin forêt.
Vous recevez des artistes qui sont en résidence à la cuisine, au centre d'art, donc des artisans de passage. Vous mentionniez les habitants de la ville de Nègrepelisse et des alentours qui sont largement conviés à venir pousser la porte dans certaines occasions. Vous parliez des journées dons du sang auxquelles vous avez participé par le biais de la cuisine, hein, qui est tout de même le fer et la lance de ce centre d'art. Qu'est-ce qu'on peut voir germer là ?
Alors, nous, en ce moment, on travaille par exemple avec l'artiste Denise Bresciani, qui est en train de monter son exposition, sur laquelle elle fait appel à des artisans qui travaillent le verre ou la paille, par exemple. Donc nous, on travaille à la coordination de toutes ces personnes, on les accompagne. On travaille au montage de l'exposition, au montage bien de petites émissions radio qu'on pourra fleurir sur notre nouveau site internet, à la création de contenu vidéo pour rencontrer l'artiste, découvrir ses idées et puis découvrir le montage de l'exposition. Et autour du centre d'art, en plus de ce jardin, il y a un autre artiste qui s'appelle Philippe Charles, qui est également, en plus d'être artiste, artisan boulanger et qui travaille sur la sélection de graines anciennes et qui a fait toute une installation artistique à partir de ces graines et des plantations autour du centre d'art. Et là, par exemple, nous avons une stagiaire Adèle, qui est en design graphique à Montauban, avec laquelle on travaille sur des panneaux en bois pour communiquer avec les habitants, pour expliquer quelle est la démarche de l'artiste et quelle est notre démarche. On travaille sur cette création-là avec le Fab Lab Origami pour faire une petite installation qui soit pédagogique. Voilà, c'est des choses concrètes sur lesquelles on travaille en ce moment. Et puis, par exemple, aussi, Rebecca Costin travaille, notre chargée des fourneaux, donc, à des actions spécifiques pour les enfants prioritaires dont les parents sont mobilisés, des aides-soignants, par exemple.
Des actions spécifiques qui peuvent avoir lieu là, maintenant
Alors, la cuisine peut effectivement intervenir, par exemple, dans les claës ou à une certaine époque dans l'école. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais on essaye de réinventer des choses en se déplaçant. Eh bien, la cuisine, tout simplement, va en dehors de ses murs à la rencontre des jeunes, à la rencontre des habitants lorsque c'est possible, qu'on a les autorisations. Et puis, surtout, la cuisine, elle prépare, cet été, elle prépare la réouverture avec des concerts, avec un festival d'architecture. Tout ça, c'est beaucoup de travail en amont. Il y a toute la programmation qui a été arrêtée, qu'il faut reprogrammer. Il faut retravailler avec les partenaires. Et tout ça, c'est beaucoup de temps et de travail. Et on espère pouvoir le partager avec vous dès fin mai, et en tout cas au mois de juin, en toute sécurité.
Nous aussi, on espère. Sylvain Montédon, chargé de communication de la cuisine. Alors, c'est quoi cette histoire de festival d'architecture cet été ?
Alors, le festival d'architecture, qui s'appellera Architecture et paysage à la cuisine, c'est un festival d'architecture qui va se tenir du 26 juillet au 1er août. Et c'est un festival qui convie de nombreux penseurs, des architectes, des paysagistes, mais aussi des poètes, des artistes, à venir eh bien, se questionner sur une thématique qui est la cour, le cours d'eau et l'eau. Et on espère que vous serez nombreux et nombreuses pour venir découvrir ce festival qui est en préparation. Il y a quelques éléments qui sont sortis sur notre site internet. N'hésitez pas à aller découvrir, à en apprendre un peu plus. La programmation est en train de s'écrire et on aura l'occasion, chers auditeurs sur CFM, de venir vous en parler.
Sur les réseaux sociaux aussi, la cuisine centre d'art et du design de Nègrepelisse, on peut retrouver ces petites capsules vidéo créées par vous-même, Sylvain.
Absolument, sur notre chaîne YouTube aussi, La Cuisine, n'hésitez pas à aller voir tout ce que nous y proposons, notamment des conférences. Et puis on va essayer aussi de proposer des petites capsules radio avec les artistes pour vous présenter leur démarche, leur travail et leurs observations et leurs créations ici dans le territoire du Tarn-et-Garonne.
Pour La Cuisine, on espère à très vite et en tout cas à dès à présent sur les réseaux sociaux notamment. Sylvain Tédon pour La Cuisine, Centre d'art et de design de Nègrepelisse. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et après la musique, le MAC du Tarn-et-Garonne au Muséum d'Histoire Naturelle Victor Brun de Montauban, où l'on pourra bientôt aller venir voir Nénette, ours brun des Pyrénées, William et Maya étaient au muséum pour son arrivée. Reportage donc après la musique.
CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Nénette a été taxidermisée et est arrivée au muséum Victor Brun de Montauban. Nénette est un ours. William et Maya étaient au muséum.
Le muséum d'histoire naturelle de Montauban accueille un nouvel ours. Depuis le 2 avril, Nénette prend la pose près de l'éléphant du cirque Pinder. Tout est parti du parc naturel de Gramat, dans le Lot, où elle a vécu pendant 29 ans. Jean-Paul Birou est directeur de ce parc et Haute Médina du muséum.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous présenter Nénette ?
Oui, donc je suis Jean-Paul Birou, donc je suis le président du parc animalier de Gramat, donc situé dans le Lot. Donc, au parc animalier, nous avons plutôt de la faune européenne, donc, et en particulier les ours, les loups qui sont les animaux phares du parc, ainsi que les lynx. Voilà, donc, ensuite, nous avons des conservatoires dans notre mission de conservation, de préservation des espèces. Et Nénette donc, faisait partie de ces animaux un peu emblématiques du parc, qui étaient depuis 29 ans au parc animalier de Gramat. Donc un animal docile, on va dire, assez facile, donc il connaissait bien les soigneurs, et donc c'était un plaisir pour tout le monde de la voir. Elle était assez calme, voilà un petit peu pour son caractère, mais malheureusement, au bout des années, elle était un peu plus fatiguée. Et nous l'avons euthanasiée avec l'avis du vétérinaire pour abréger ses souffrances. Voilà. Et à partir de là, donc, on s'est interrogé pour dire mais comment on peut prolonger un petit peu ou lui donner une seconde vie, on va dire. Et donc, on a fait appel à la DREAL, donc, au lieu de Toulouse, pour chercher un muséum, ou particulièrement les muséums, qui pourraient donner une seconde vie aux animaux. Voilà. Et la mairie et le muséum de Montauban ont répondu favorablement. Je tiens à les remercier fortement parce que donc sans ça, on ne verrait plus Nénette aujourd'hui. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la naturalisation des animaux ?
Alors donc, quand l'animal est décédé, donc on le met en chambre de congélation et on cherche donc un muséum qui peut le prendre, et à ce moment-là, donc on fait faire un devis et on voit comment l'animal peut être naturalisé, donc s'il a bien les papiers, s'il est bien identifié, puisque bon, ce sont des animaux protégés, les ours. Voilà. Donc une fois une démarche administrative un peu longue, on cherche un taxidermiste, donc qui naturalise la peau, qui prend la peau. Et ensuite, donc, dans un deuxième temps, on a pu arriver à faire aussi à reconstituer le squelette. Ça se fera dans un deuxième temps. Voilà. Et donc, c'est un spécialiste qui fait ça. Et je tiens à faire remarquer que le travail ici de ce taxidermiste est remarquable. Et on voit Nénette très, très bien. C'est très bien reconstitué. Ça fait quelque chose de l'avoir comme ça, parce que vraiment, c'est tout à fait naturel.
Je sens de l'émotion presque dans vos yeux et dans votre voix.
On l'a vu plusieurs années dans le parc, après on la retrouve comme ça. Mais c'est aussi une satisfaction pour moi, du parc, bon, mais peu importe, mais surtout pour le parc animalier. Dans sa mission de pédagogique, ça montre cet aspect scientifique que nous voulons aussi développer. Sur l'interrogation des animaux protégés, comment ils vivent, comment ils se reproduisent, à quelle vitesse ils courent, qu'est-ce qu'ils font dans la nature, etc. Voilà, donc ce côté pédagogique, on y tient. Et c'est vrai que dans nos missions de parc zoologique, c'est la préservation et la conservation des espèces. On fait de la reproduction pour conserver les espèces qui sont protégées ou en voie de disparition.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette espèce? Où est-ce qu'elle vit? Quel est son régime alimentaire?
L'ours brun, il est originaire de Slovénie. Voilà, donc, on en trouve à l'état sauvage dans les Pyrénées. Et donc, après, nous, en tant que parc animalier, on a à l'heure actuelle donc un mâle et deux femelles, voilà, et qui peuvent reproduire. Et voilà, donc cet aspect, on dirait, pédagogique pour les visiteurs et pour les enfants est très important.
L'important, si vous voulez, mise en place au muséum, c'est l'accord de la mairie de Montauban et du muséum. Voilà, ça, c'est pour nous, c'est sinon, qu'est-ce qu'on en faisait, quoi, s'il partait, Nénette partait à l'écarissage. Et donc, c'était pour nous aussi. Les ours durent 30 ans, donc c'est leur durée de vie, c'est 30 ans. Elle est arrivée au bout et de la revoir encore pendant de nombreuses années, c'est un plus, quoi. Hein. Nous, on est dans nos missions, puisqu'on s'occupe des animaux au quotidien, c'est aussi quelque chose d'important. Quoi, quand ils sont morts, c'est un plus de les revoir et qu'on prolonge notre mission pédagogique. Voilà, c'est ça.
Bah, merci beaucoup.
Un plaisir.
Bonjour Aude Medina, vous êtes la directrice du muséum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de placer Nénette ici ?
Alors, on l'a mise ici. Alors, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace. Et il se trouve qu'à cette place-là, il y avait déjà un ours qui était assez ancien, qui était en très mauvais état et qui faisait peut-être plus peur qu'autre chose, qui était debout avec une branche, une patte accrochée à la branche. Donc, on a mis ce spécimen-là en réserve pour lui permettre de se reposer un peu. Et du coup, elle a pris sa place. Voilà.
Est-ce qu'elle va voler la vedette à l'éléphant alors ?
Eh bien, on attend le public pour vous le dire. On a hâte que le public vienne la découvrir en vrai. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a été faite la taxidermie ?
Alors, à l'intérieur, c'est un mannequin en mousse très dense. Par-dessus, on vient... Alors, ils sculptent la forme de façon assez grossière. Ensuite, ils viennent poser la peau dessus, voir comment la peau bouge. Alors, avant, il y a toute une série de mesures, de prises pour les mensurations, etc. Ensuite, ils viennent fignoler la forme avec de la terre pour redessiner ce qui était assez grossier. Et ensuite, ils viennent appliquer un genre de colle résine. Ils viennent poser la peau dessus. Ils s'occupent de faire toutes les coutures, etc. Mmh. Et après, il y a des finitions au niveau de la sculpture du nez, le maquillage sur les yeux. Il faut qu'ils fassent tenir les paupières, les faire sécher, etc. pour pas que les paupières tombent. Donc après, c'est un vrai métier d'art, la taxidermie. Je l'ai vu quand je suis allée faire les dernières finitions avec eux. Et on en arrive à ce niveau de rendu, en fait, on a vraiment l'impression qu'elle est vivante.
Et alors, pourquoi cette espèce ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ?
C'est une espèce particulière, c'est pas... on est sur une espèce qui est en danger critique d'extinction en France, qui est assez sensible, qui est emblématique de la région. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant que cette dépouille, elle parte pas comme ça. Voilà, c'est pas... Je les traite tous plus ou moins sur un pied d'égalité, mais ce serait une espèce qu'on peut, entre guillemets, récupérer facilement. Je ne me serais peut-être pas battue autant. Là, pour nous, c'était une chance inouïe de pouvoir la récupérer, d'autant que quand vous avez des parcs comme ça qui ont des grosses espèces qui décèdent, quand on est un petit musée, c'est difficile de se positionner parce que on n'a pas on n'a pas l'équipe derrière qui nous permet d'agir. Vous avez des gros musées comme le Muséum de Bordeaux. Ils ont une équipe qui, quand on les appelle, que ce soit le week-end ou quoi, ils partent, ils dépouillent, ils récupèrent. Hein. Nous, on peut pas. Et la chance qu'on a eue avec le parc de Gramat, c'est qu'ils avaient une chambre froide qui a permis de la conserver, chose que nous on pouvait pas faire ici et qui justement nous a permis de trouver le taxidermiste, de faire valider donc par la collectivité le fait de la récupérer. Et voilà, je trouvais que c'était important de faire l'effort et pour une espèce comme ça.
Oui, mais je pense aussi que c'était une bonne collaboration, puisque bon, nous aussi on tenait à ce qu'il y ait une poursuite dans la vie de Nénette, entre guillemets. Et donc c'est vrai que cette collaboration, et il faut remercier aussi l'Adrial qui nous a bien aidé aussi à trouver le taxidermiste, etc. On a bien travaillé ensemble, et surtout avec vous bien sûr, le muséum, donc voilà le résultat qui est quand même assez exceptionnel, et c'est très très beau, quoi. Ouais, c'est très réussi. Ouais.
Alors pour l'instant, le muséum est toujours fermé au public en raison de la crise sanitaire, mais une exposition sur les ours est prévue à la réouverture. Ce sera une belle occasion de venir découvrir Nénette.
William Bernecker et Maya Brunel pour ce reportage au muséum. Ce mag est à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Et pour maintenant, les infos.